C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
La prochaine heure, on va la passer avec celui qui avait beaucoup moins de responsabilités sur ses épaules cette semaine, la semaine qui vient de passer, évidemment, pour l'Omnium Banque Nationale. Il a été directeur de cet événement-là pendant plusieurs années. Eugène Lapierre est avec nous en studio.
Bonsoir.
Bonsoir Eugène, ça va bien?
Bonsoir Yannick. Très bien, ben oui, très bien.
Content de t'accueillir, content de t'accueillir.
Très bien, ben oui.
Je disais que tu avais été directeur pendant de nombreux... Combien de temps t'as été directeur?
Il y a une petite polémique là-dessus. Moi, je dis que c'est 22 ans.
Okay.
J'ai commencé en 2001. Puis mon dernier tournoi était en 2022.
Okay.
Alors, d'abord, moi, ça fait 22.
Okay.
Si je commence à 1, puis je finis à 22. Mais vu qu'il n'y en a pas eu l'année de la pandémie, on dit souvent que c'est 21 ans.
Okay.
Mais moi, je dis non, c'est 22 parce que la pandémie, c'était la pire.
Tu l'as géré.
Oui.
Tu l'as géré.
Gérer ne pas avoir de tournoi, ouais. C'était pire que n'importe quoi d'autre.
Bon, on va s'entendre pour plus de 20 ans à la tête de l'Omnium Banque Nationale, qui était la Coupe Rogers, qui a changé de nom à plusieurs occasions. Comment justement, Eugène, je veux juste rappeler aux auditeurs, auditrices, que d'abord, je voulais t'accueillir la semaine dernière dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale, mais il y avait plein de choses. T'as été honoré, avec raison. T'es allé faire un tour du côté de Toronto. Vendredi, on n'avait pas d'émission, donc on s'est dit, on va boucler la boucle de la semaine du tennis à Montréal en t'accueillant lundi. Habituellement, on faisait toujours le wrap-up de l'événement dans les médias. Comment justement t'as vécu cet Omnium Banque Nationale, je disais tantôt, sur les lignes de côté?
Ouais, tout à fait. Ça a été intéressant de voir ça. D'un côté, j'étais très relax et tout ça, mais je m'en faisais un petit peu pour l'équipe quand même. Je les voyais courir partout. Je voyais Valérie qui se dépêtrait avec une météo horrible, avec des situations comme on voit vraiment pas souvent. Mais on s'en est bien tiré. En même temps, la vente de billets était formidable.
Oui.
On a battu un nouveau record d'assistance. On détient le record mondial pour un tournoi féminin d'une semaine. Également du côté masculin, mais chez les filles, on est une tête et des épaules en avant de tout le monde. Alors, le tournoi ici féminin marche vraiment très très
bien.
Pourquoi? Parce que je sais pas. Oui, je le sais, mais je le sais pas. Le fait qu'on alterne, je crois que ça aide énormément. Et les gens à Montréal ont vraiment fait une fête de ce tournoi-là. Et je le disais souvent en blague pendant des années, les gens achètent leurs billets puis ils disent après, au fait, c'est-tu les hommes ou les femmes cette année? Alors, c'est comme les gens, on vient voir le tennis, c'est le fun, on s'amuse, on invite des amis, des clients, la famille. Et c'est une rencontre sociale qui est rendue inscrite là, dans Montréal, où les Québécois viennent en masse aussi. Alors, oui, je pense que ça fait pas une grosse différence que ce soit les hommes ou les femmes. Le fait de les voir juste à tous les deux ans, on a hâte de voir tel joueur, telle joueuse, les nouvelles, Swiatek, ils la connaissaient pas, les gens, Sabalenka et ainsi de suite. Alors bon, c'est un peu tout ça, et c'est la fête du tennis. Alors on manque pas ça.
J'invite les auditeurs auditrices, si vous avez des questions ou des commentaires à passer à adresser à Eugène, n'hésitez pas. 9-8-9-8-5, on en prendra quelques-uns au cours de l'entretien. Il est avec nous, très généreux de son temps. Il est avec nous pendant une heure. Eugène, tu me disais, tu regardais l'équipe travailler très fort avec la météo horrible, puis tout ça, puis Valérie qui est là comme la première fois comme directrice. Mais tu me disais, avant d'entrer en onde, tout ça... Toute cette, je dirais, cette fébrilité-là, t'as manqué en quelque sorte un peu la semaine dernière.
En fait, c'est surtout ça. C'est les situations un petit peu problématiques qui m'ont toujours intéressé dans le job. Comme je disais souvent à l'équipe, écoutez, moi, vous avez tous préparé dans vos départements respectifs le tournoi et vous allez travailler très fort pour le mettre en place. Mais moi, quand j'arrive au tournoi, je veux avoir une feuille blanche. J'ai rien. J'arrive le matin au bureau, je veux rien avoir. C'est sûr que j'ai des entrevues, quelques rencontres ici et là, mais je ne suis là que pour justement répondre aux situations, et Dieu sait qu'il en arrive tout le temps. Des demandes particulières des joueurs, des demandes particulières des médias, des demandes particulières des partenaires, des circuits, des officiels, et quelque chose à corriger ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose qui va penser à l'annonce. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc oui, et c'est ça qui était, moi, ce que je trouvais qui était mon rôle comme tel. Et donc, quand il y avait une journée qui se passait rien, ben j'étais là, je dis ok, ben c'est beau, on a tous bien fait ça, les gens sont venus, ont eu du plaisir, il a fait soleil tout le temps, on repart, ben à demain. Mais quand il arrive quelque chose là, j'avais l'impression de vraiment rentrer en ligne de compte. Et là, je voyais ça, et là, je me disais, oh boy, je me suis passé la tête dans le but,
dans l'entreporte.
Je me dis, ça va bien? C'est-tu correct? Hey, Eugène, viens t'asseoir. Fait que là, on discutait un petit peu. Fait que, puis Valérie m'a appelé un autre moment donné.
Viens, on t'a demandé quand même ton expertise un peu. Voir.
Ouais, parce qu'est-ce que vous aviez fait en 2010 quand c'est arrivé, puis t'as l'affaire, puis tout ça. Alors, c'est certain que je vais rester disponible toujours pour ce genre de situation-là. C'était pas le but de l'affaire que je traîne autour de la place, là, mais nécessairement. J'étais bien content d'aller voir le tournoi et tout ça. Mais ça a été le fun de me retremper un petit peu comme ça par la bande.
Et j'imagine que l'organisation était bien fière de te savoir pas trop loin quand même un peu.
Ben, vous leur poserez la question.
Ouais.
Non, ça devrait être pas mal. Ouais.
Eugène, Charles te demande, quelle a été ta meilleure année et pourquoi?
Bonne question, la meilleure année. La meilleure année.
Ou est-ce qu'il y en a une qui ressort du lot, là?
Colin.
C'est dur, ça, c'est difficile, là.
Ben, il y en a une que j'ai trouvée intéressante. C'est en 2005. Et c'était un tournoi masculin. Et c'était le changement de la garde, pas mal. Il y avait des jeunes joueurs qui montaient sur le circuit, dont Raphaël Nadal, et de plus vieux joueurs qui tentaient de maintenir leur domination, dont André Agassi. Et ça a été une finale, Nadal contre Agassi.
Wow.
Et donc ça a été assez marquant en 2005. Mais il y en a eu tellement des bonnes années, de voir la progression de nos athlètes. Je me souviens, dans les premières années, quand Richard Legendre était toujours là, et que je l'assistais dans le tournoi, on se disait, ben oui, on fait des sous avec le tournoi, on remet tout pour le développement du sport, puis on essaie d'investir, puis de former des athlètes et tout ça pour que ça progresse, pour que ça serve d'inspiration pour d'autres jeunes à sauter sur le terrain et tout ça. Mais ça souvent, nos athlètes canadiens perdaient au premier tour, au deuxième tour. Hein. Très tôt dans le tournoi, il restait plus personne. Et là, au fil des ans, ben, ça s'est mis à changer. Et là, aussi, quand on a vu Alexandra Wozniak aller en quart de finale, ensuite, on a vu Bianca. L'année qu'on a eu Milos Raonic en finale contre Nadal, et il était en demi-finale contre Vacek Pospisil. Alors, on se disait, ben là, le tennis canadien commence à bouger. Ça se continue, il y a des hauts et des bas, ça va. Mais on est sur une bonne lancée là, quand même. Puis on a quelques bonnes années devant nous, certainement.
Et je vais faire le chemin sur ce que tu dis, parce que quand tu as annoncé que tu ne revenais pas comme directeur de l'Omnium Banque Nationale, tu as dit, et je te cite, « Je veux promouvoir la pratique du sport par le tennis et donner plus d'occasions d'adopter le tennis et de développer leur talent sportif. » On y arrive comment?
Ben c'est ça, par l'accessibilité. Moi, je le crois fermement, parce qu'on a démontré que notre programme de développement des meilleurs athlètes est assez efficace. Donc, ce que Louis Borfiga a mis en place, ce que Guillaume Marx poursuit, ce que Sylvain Bruneau a fait, Martin Laurendeau, Simon Larose, tous nos coachs, ils font un sacré bon travail avec les athlètes qu'on a. Mais ça en prend.
Ça prend un bassin de joueurs.
Ça prend de bons talents. Puis ça, il n'y en a toujours pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tant de jeunes qui jouent au tennis à l'année longue. Mm-hmm. Et pourquoi? Ben, c'est parce que c'est pas toujours abordable de jouer dans des clubs à l'année longue. Donc, ça nous prendrait plus d'installations où le tennis est abordable 12 mois par année pour attirer plus de jeunes. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est à un moment donné, c'est la loi des nombres là, qui va jouer.
Mais si par exemple, ce ne sont pas dans les clubs que les jeunes vont jouer 12 mois par année, on peut faire les installations à quel endroit? On critique souvent la qualité de nos arénas, on critique souvent la qualité des installations sportives, peu importe le sport. C'est une volonté gouvernementale, municipale aussi de faire ça, non?
Effectivement, c'est ça. Pour moi, il faut qu'il y ait un soutien public à quelque part. Tu parles des arénas, on peut regarder les piscines, les clubs
exact.
De soccer, des
oui.
gyms, tout ça. Et pourquoi que ça marche à un moment donné, mais et même à ça. Ben, puis moi, je pense que le modèle de tennis, on l'a démontré au stade IGA, mm-hmm. c'est plein tout le temps, mm-hmm. tout le temps, tout le temps. Oui, on a eu de l'aide gouvernementale pour bâtir la place, mais après ça, on vole de nos propres ailes et ça sert même à financer le développement du sport qui se déroule au stade IGA lui-même. Donc, oui, c'est faisable. Oui, c'est des modèles. Donc, c'est de créer la demande auprès des municipalités et des villes. Chaque municipalité pourrait, quant à moi, devrait avoir des installations de tennis qui n'ont pas besoin d'être des clubs super luxueux et tout ça. Tu l'as dit, c'est pas, on n'a pas besoin de on regarde dans nos arénas et tout ça. Le modèle en Europe, en Suède, en Tchécoslovaquie, ou tout ça, les clubs intérieurs, les jeunes jouent, s'en vont là après l'école, ça ressemble beaucoup à nos arénas. Les parents qui les amènent là, ou les coachs, tout ça, ils ont leur manteau sur le dos, là, mm-hmm. Au mois de février, là. C'est pas 24 degrés dans la place, puis t'as pas un bar, pour aller prendre une bière après, là, tu sais,
c'est pour jouer.
Tu t'en vas là pour jouer. Et là, oui, donc on n'a pas ce modèle-là de plan B, qui est moins luxueux. C'est comme si, j'ai souvent donné l'exemple, c'est comme si on voulait s'acheter des voitures, puis il y a juste des BMW puis des Mercedes. Mm. On peut-tu s'acheter une Yaris usagée? Tu sais, bon.
Et ça fait la job quand même.
Ben oui, tout à fait, pour aller d'un point A au point A. Enfin, alors c'est un petit peu ça, je veux dire, on essaie de développer l'idée de dire, oui, il y a une demande qui est là, faisons-la sortir, faisons-la, et parlons aux municipalités et tout ça, puis comment s'organiser pour avoir plus d'accessibilité pour tout le monde. Et c'est pas moi qui dois le dire, là. C'est pas moi qui dois aller cogner à la porte des municipalités, c'est les joueurs de tennis qui doivent y aller et dire oui, on a besoin, on veut jouer toute l'année. Alors, écoutez, c'est une quête, là. Je m'en vais dans quelque chose qu'on n'a pas vraiment cherché à développer énormément et je m'aperçois assez vite là, que la côte est assez abrupte. C'est là que je vais, puis je vais travailler avec les amateurs de tennis, les adeptes de partout, les municipalités, pour dire comment on peut faire pour donner plus d'accessibilité à ce sport qui est si populaire au Québec.
On est de retour avec le conseiller spécial maintenant auprès du président de Tennis Canada, Eugène Lapierre, qui passe l'heure avec nous, très généreux de son temps. Je me demande, ça fait quoi ça, un conseiller spécial auprès du président?
C'est un titre.
C'est large?
Comme ça. C'est très, très large. Quand on a... Michael Donné est arrivé avec moi, qui est le CEO, le PDG de Tennis Canada, m'a proposé ce titre-là, mais il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis c'était ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes.
Oui.
C'est ça que je lui ai exposé, puis j'ai dit, bon, ben il y a d'autres trucs aussi. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec notre stade et tout ça. Puis voir qu'on en a pour 30 ans, là. On a parlé plus tôt avant l'émission, toi et moi, et on pourra en parler tantôt.
Oui.
Mais on a des ententes à long terme avec l'ATP, avec la WTA et avec la ville, notamment la ville de Montréal. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise nos affaires pour les 30 prochaines années? Alors, c'est assez large. C'est un contrat de 2 ans que j'ai avec Tennis Canada qui peut être renouvelé. Et je suis disponible mais je vais pousser mes propres petits dossiers comme ceux dont j'ai parlé avant, il y a quelques minutes.
L'accessibilité au tennis.
Entre autres.
Mm-hmm. Tu sais, Eugène, j'en démords pas, je te parle toujours du toit. Le toit fait-tu partie de tes de tes dossiers.
C'est sûr que la question du toit va faire partie des choses qu'on va étudier dans un assez proche avenir. Je pense pas qu'il y ait la même urgence qu'il y a quelques années du fait que on voulait se démarquer sur la scène internationale pour aller chercher un contrat à long terme avec les circuits. Mmh. D'une part, on était presque prêt à y arriver avant la pandémie, et là la pandémie est arrivée, et là le projet ne serait plus le même après à cause des coûts de construction qui ont explosé et tout ça, mais aussi et surtout je dirais du fait qu'on a obtenu une entente à long terme avec l'ATP et la WTA, une entente de 30 ans et qui ne nous oblige pas à avoir un toit. Ce qui va nous obliger à avoir un toit à un moment donné, c'est si on veut présenter un spectacle qui a pas toutes les embûches qu'on a connues la semaine dernière. Et là, on le voit parce qu'on regarde le tournoi de Cincinnati.
Cincinnati, oui, c'est suspendu.
Il y a Washington la semaine d'avant, il y a plus toute la semaine. À Rome cette année, il y a plus pendant toute la semaine. Et là, eux autres, ils veulent avoir leur toit. Absolument. Et c'est pas juste la pluie à un moment donné. Ça va être les conditions climatiques deviennent très difficiles pour les athlètes nécessairement, pour les spectateurs. Quand il y a la canicule, aller voir un spectacle en plein air. Alors, est-ce qu'on s'en va vers une ère où, à un moment donné, ça va être agréable d'assister à un spectacle sportif ou autre, mais sous un abri, quoi, à l'abri du soleil ou de la pluie et ainsi de suite. Peut-être que c'est vers là qu'on s'en va, mais comme je disais, on regarde ces questions-là, on voit que notre stade vieillit énormément aussi, et on va étudier ces choses-là.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Hier, le premier ministre François Legault, qui était sur place pour la finale à l'Omnium Banque Nationale, en entrevue à TVA Sport, qui dit que ça doit être une priorité pour la ville de Montréal, avoir le toit sur le stade déjà. En fait, il dit ça devrait être une priorité, oui, mais du même souffle, il dit ça devrait être une priorité pour la ville de Montréal. Et de l'autre côté, il dit aussi... Il faudrait que ce soit utilisé, le stade IGA, plus que 10 jours par année. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce stade-là ait une vocation plus de 10 journées par année, par exemple?
Il y aurait une possibilité, mais on est très conscient et on comprend la situation des voisins du parc Jarry. Qui n'ont pas c'est pas un endroit idéal pour arriver avec des spectacles et des spectacles culturels ou sportifs et tout ça les uns après les autres, un petit peu un cul-de-sac et tout ça. C'est assez dérangeant pour le voisinage et tout ça, et on est conscient de ça et on veut être respectueux de ça. Quand on a signé un contrat à long terme avec la ville de Montréal, on s'est entendu sur un nombre limite de spectacles qu'on pouvait faire là. Puis là, j'ai pas les chiffres en tête, je pense que c'est 10 spectacles sportifs et 10 spectacles non sportifs ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est pas, on peut pas faire une centaine de shows. C'est impossible. On va en avoir... Mais de toute façon, on avait cette possibilité-là de le faire avant. On l'a pas fait nécessairement parce que c'est pas si simple que ça non plus. Mais quand on a fait 10 à 15 événements entre 2000 ou 5000 spectateurs ou participants, que ce soit sur un cours secondaire dans le stade ou même à l'intérieur sur les cours de tennis dans le bâtiment intérieur. Alors, c'est ce genre de choses. Donc, c'est pas un endroit pour faire du spectacle à l'année longue, comme Evenco pourrait en faire au Centre Bell ou quelque chose comme ça.
Tu parlais de l'association, de l'entente qui vous lie avec la ville, avec l'ATP, avec la WTA pour 30 ans. Quand même, quand un directeur de tournoi ou une directrice de tournoi obtient une entente à long terme comme ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour la pérennité de l'événement.
On se sent très en confiance avec les deux circuits. On a une très, très bonne collaboration autant de l'ATP que de la WTA. Le PDG de la WTA a passé 5 ou 6 jours à Montréal la semaine dernière. Il est arrivé vendredi, wow, avant le tournoi, puis il est reparti jeudi. Alors, j'ai eu de bonnes discussions avec lui et tout ça. Alors, les circuits nous aiment beaucoup. Les joueurs nous aiment beaucoup. Les joueuses aiment ça, venir. On les a entendus, puis on les force pas à dire quoi que ce soit. Ils mentionnent toutes la même chose. On aime ça jouer devant du monde. On se sent aimé quand on vient à Montréal. Alors donc on a le record d'assistance pour un tournoi d'une semaine unisexe. Je dirais que du côté des hommes, du côté des femmes. Alors donc oui, je pense qu'on est dans une très très bonne position. Notre situation est pas en danger. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec le Moyen-Orient, avec des.
Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que vous avez des inquiétudes?
Inquiétude serait un grand mot. C'est une préoccupation.
Des soucis, peut-être?
C'est une préoccupation. Disons qu'on le garde sur le radar. On fait bien attention à ce qui se passe. Et s'il y avait des désirs ou qu'on entende quelque chose qui se passe de ce côté-là, quelqu'un qui veut partir un nouveau tournoi ou une nouvelle série de tournois, c'est arrivé dans le passé. Quelqu'un qui voulait partir une ligue, une super ligue, pendant tout l'automne et aller chercher les meilleurs joueurs du monde et tout ça, alors ça aurait bousculé le calendrier de façon vraiment incroyable. Alors, donc oui, on fait attention. Pour l'instant, il n'y a pas trop de choses qui se passent là de ce côté-là, mais hey, on sait pas, on l'a vu, on a vu plein de choses arriver.
On sait jamais ce qui vous peint au bout du nez. Mm-hmm. Plusieurs questions, Eugène, on parlait de la finale d'hier qui a été disputée. Jessica Pegula qui l'emporte en 49 minutes. Son adversaire avait joué la demi-finale en après-midi. Elle a joué 2 matchs en l'espace de quelque chose comme 3 heures ou à peu près. Il y a quelqu'un qui nous écrit, Pat de la Valtrie, qui dit « J'ai assisté à la finale hier et je m'attendais à un spectacle horrible. » Ce sont ses mots. Est-ce qu'il y aurait eu une possibilité de déplacer la finale à aujourd'hui?
Ah, ben, ça c'est une bonne question, mais je connais pas un seul tournoi dans l'histoire qui aurait remis un match alors qu'il fait une journée ensoleillée, un beau temps, que tout le monde est sur place, que tout le monde est là, et on dit non, désolé, la joueuse risque d'être trop fatiguée, on va jouer ça demain. Ça serait un précédent invivable pour la suite.
Oui, hein?
De prévoir que quelqu'un va être fatigué, fera pas une bonne performance à cause de l'horaire, alors là, ça deviendrait compliqué. J'ai jamais vu un match arrêté ou remis par période de beau temps. C'est toujours à cause des intempéries.
OK, c'est facile aujourd'hui de dire, bon, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Mm-hmm. Je te mets dans le contexte, par exemple, puis t'étais pas le directeur du tournoi, c'était Valérie qui a fait les démarches avec la WTA, avec les réseaux de télé. Je sais très bien comment ça fonctionne. Mais par exemple, vendredi, vous voyez ce qu'on annonce samedi, par exemple, en météo. En soirée, on annonce la pluie. Bon. Est-ce qu'il aurait été préférable peut-être vendredi déjà de dire on va jouer les 2 demi-finales, une à midi et demi et l'autre à 15h, 15h30 pour être certain d'avoir un seul match le dimanche?
Si ça avait été possible, oui, mais avec des cris et des grincements beaucoup pires que ce qu'on a eu là.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Devancer un match, c'est l'enfer. Je suis même pas sûr qu'on l'a déjà essayé. Je l'ai déjà vu à quelque part. Mais là, tout le monde a son billet. Mmh. Tout le monde va à 1 heure d'arriver. Tout le monde arrive. Et là, tu devances le match. Et les gens arrivent. Et le match est fini. Oui, on l'a joué 2 heures avant. Alors, et là, la télévision est programmée et tout. Et c'est un spectacle qu'on montre.
Ouais.
Non seulement ici, à travers le monde.
175 pays qui diffusaient.
Exactement. Il faudrait revoir, mais c'est dans ces eaux-là. Alors, on a des contrats de télévision avec tous ces gens-là. C'est un réel spectacle que les gens apprécient partout et tout ça. Donc, bouger ça, c'est très difficile. Donc, le fait de devancer une demi-finale, difficile. Là, et donc, la même chose pour la demi-finale de soirée. Donc, les gens, on aurait pu les coller, mettre les autres back-to-back, si on veut, les jouer une après l'autre.
Ouais, ouais.
Mais la même chose serait arrivée pour les gens, la demi-finale de soirée. Et là, c'est de se dire que la météo elle est à 100% véridique. C'est arrivé tellement souvent que la météo a prévu de la pluie et qu'il n'y en a pas eu. Alors, on peut pas le dire avant. Et là, c'est facile. Tout le monde va dire, ben voyons donc, c'était sûr qu'il allait pleuvoir. Oui, mais il y a des fois que c'est sûr qu'il allait pleuvoir, puis il n'y a pas plus une goutte de pluie. Je me souviens d'avoir déjà été au stade il y a quelques années, puis quelqu'un appelle qui voulait se faire rembourser ses billets. Je dis, ah oui, pourquoi? Ben parce qu'il pleut. Ouvrez votre téléviseur, monsieur.
Il y a du tennis en
oui,
ce moment.
Mais il annonçait 100% de pluie, puis on n'a jamais eu d'interruption de toute la journée. Alors, les choses arrivent. La semaine dernière, d'ailleurs, on a eu une journée où il annonçait énormément de pluie, puis on a joué quasiment normalement toute la journée. Alors, il faut arriver là, et là, il n'y a aucun tournoi qui vont annuler des matchs parce qu'ils pensent qu'il va pleuvoir. Mm-hmm. Et oui, il arrive qu'il pleut. Mais il faut être là, puis on agit en conséquence une fois qu'il commence à pleuvoir.
Quelqu'un qui nous demande, avant d'aller à la pause, possible de faire des parties au Centre Bell?
Non. C'est un tournoi extérieur et on joue en extérieur.
Ouais. Alors voilà, question simple, réponse simple.
Oui. La seule possibilité, c'est si un toit est rétractable. Alors, pour continuer le match, là, on peut fermer le toit. Et quand il y a l'arrêt de pleuvoir, ben, on rouvre le toit.
OK. Eugène Lapierre est avec nous, conseiller spécial auprès du président de Tennis Canada. Il passe l'heure avec nous. On est de retour avec Eugène Lapierre. Il y a quelqu'un, Jason, qui demande, Eugène, est-ce qu'un joueur ou une joueuse a déjà gagné deux matchs dans la même journée?
Oh, sûrement. Et sûrement, ben là, je n'ai pas les statistiques, mais c'est clair que c'est arrivé souvent. C'est clair. Mais écoutez, on se le disait pendant la pause, oui. Je te mentionnais, un joueur ou une joueuse qui joue deux matchs la même journée, ça arrive très souvent. Parce qu'il y a de la pluie très souvent dans tous les tournois du monde.
Et tu me rappelais que Samsonova avait joué vendredi soir, avait joué deux matchs vendredi, elle avait battu Sabalenka dans la journée. Elle avait battu son adversaire en soirée. Mm-hmm. Samedi, elle avait pas joué.
Pas joué du tout.
Hein. Pas joué du tout.
Ouais.
Donc, l'organisation prend des décisions, la WTA prend des décisions, le tournoi est fait, le tournoi est bouclé et Jessica Pegula est la championne de 2023.
J'ai pas suivi ça non plus, mais je me souviens plus si c'est les joueuses elles-mêmes, est-ce que c'est Samsonova qui a fait une montée de lait après sa défaite ou quoi? J'ai pas vraiment suivi, là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais si c'était le cas, elle aurait dû la faire avant.
ça n'a pas de bon sens,
ben alerter tout le monde, puis ça, mais non, là, c'est après la défaite.
Après.
Alors donc, bon, enfin, on veut.
Parce que je me demande encore, puis c'est sûr que c'est une polémique, si on peut dire, parce que si la finale avait duré 2h40, probablement qu'on n'aurait pas le discours aujourd'hui. Vous comprenez? Là, ça a duré 49 minutes. Mm-hmm. Donc, ça a été extrêmement expéditif, surtout pour les gens qui se sont présentés pour la finale sur le court central. Mais il faut que vous composiez avec les éléments, comme on dit, et c'est arrivé. Et le tournoi a fracassé un record pour un tournoi féminin. Et il va avoir un tournoi en 2024. Puis il va encore avoir des petites histoires comme ça qui vont ressortir après l'événement. Eugène, tu parlais tantôt d'une entente de 30 ans avec la WTA, avec l'ATP également. Et je te parlais de ton titre de conseiller spécial auprès du président de Tennis Canada. Et tu me disais, j'ai des petits dossiers comme ça. J'ai, par exemple, ce qu'on fait avec le stade au cours des prochaines années. Puis pas nécessairement le toit, mais plus ça va aller, plus les gens vont être exigeant. Je parle peut-être des amateurs, du client qui se rend au stade IGA. Est-ce qu'il y a des plans d'agrandissement, peut-être, d'ajouter des sièges pour le stade IGA, éventuellement?
Je pense pas qu'on a besoin de plus de sièges.
Non?
Non. Je pense qu'un stade, là, on est à 12 000 ou quelques poussières en moins. C'est une bonne grandeur de stade pour le tennis.
Ouais.
Il y en a peut-être qui ont déjà eu la chance d'aller au US Open. Et le stade c'est à peu près comme le Centre Bell. C'est 23 000, mon affaire de même. Je me souviens d'être allé en haut juste pour voir qu'est-ce que ça donnait, le dernier banc en haut pendant que le stade était vide et il y avait des joueurs qui s'entraînaient sur le terrain. Et quand ils frappaient la balle, il y avait une petite un délai entre que je vois la balle frapper et que je l'entends, que j'entende le son de la balle, tellement t'es loin.
Ah oui.
Alors, un petit délai, bof, tu dis, oh, my, on est loin, là. Alors, donc, c'est loin, t'es loin. Je vois le monde des fois, puis il regarde à l'écran géant. Alors, non, c'est trop gros. Ben, 12 000, on est bien. C'est parfait. Et notre stade est intime. Et moi, je l'adore. Je vois des stades où t'es dans la 10e rangée, puis t'as l'impression que t'es loin, parce que ça monte tranquillement. Là, nous, c'est intime, c'est proche, t'es sur le jeu. Alors non, je pense que notre stade est bon. Mais l'autre affaire qui me fait dire qu'on n'a pas besoin de penser à ça tout de suite, c'est que le tournoi va grossir à compter de 2025.
Exact.
On va pratiquement doubler le nombre de joueurs, le nombre de joueuses qui vont s'arrêter à Montréal, et on va ajouter 5 jours de tableau principal. Donc là, présentement, on a 7 jours. On commence le lundi, mais on finit au dimanche. On va rajouter 5 jours, donc 10 séances de plus. Et là, il va y en avoir du tennis. Donc, wow. Il y a du monde qui va en voir. Et donc, évidemment, il va y avoir, ça sera pas, tu sais, je cherche l'accessibilité pour le jeu, mais aussi pour voir les, tu sais, personne qui est à Montréal qui peut nous dire, je peux pas aller voir les meilleurs joueurs du monde parce que j'ai pas assez d'argent. Non. Le premier week-end est pratiquement gratuit. Ça coûte 10-15 $, ou bien c'est gratuit si on arrive à la porte pour se faire remettre un billet, puis on va voir les matchs durant le premier week-end, les premières journées. Alors, les 10 premières séances dans un nouveau modèle, on n'a pas fait les prix encore, mais ça va être très abordable. Donc, on veut rendre le tennis amener encore plus d'amateurs qui vont pouvoir venir assister au match. Alors, je pense qu'on en a pour de très, très belles années avant d'être dans le plafond, là, de plus avoir de place du tout, puis de penser peut-être à rajouter des sièges. Mais moi, j'aime bien la grosseur du stade qu'on a.
Et les amateurs vont en avoir pour leur argent, parce que quand tu ajoutes 5 journées de compétition de tableau principal, tu sais, c'est court une semaine quand même, parce que t'as le week-end où il y a les qualifications, tu commences le lundi, puis déjà rendu au jeudi, t'es presque au quart de finale. On va en avoir. Ouais.
Puis l'autre affaire, pour ceux qui s'inquiètent des joueurs et des joueuses qui jouent trop de matchs la même journée ou sur 2 jours, tout le début du tournoi jusqu'au demi-finale ou à peu près, ils vont avoir une journée de repos entre 2 matchs.
Bon.
Alors, on joue la moitié du tableau la première journée, la deuxième moitié du tableau l'autre journée. Ceux qui ont gagné rejouent la 3e journée et ainsi de suite. Bon. Alors donc, jusqu'au demi-finale, c'est un peu le modèle des grands chelems, si on peut dire. Donc, plus de repos, c'est mieux pour la santé des athlètes. Et puis, c'est ça. Ça va être très intéressant.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Je t'écoute parler de tennis, Eugène, t'es encore très passionné après toutes ces années. Ça devient d'où, ça, cette passion-là? Ta famille, t'as des sportifs?
Ben, oui. Sur la rue Albert à Grimby, on a les terrains de tennis juste en face de chez nous. Alors j'allais traîner au tennis.
Ben, c'est mieux ça que de traîner dans un parc et rien faire.
Je traînais au tennis. C'était un endroit où on s'amusait, on faisait des folies. Et de temps à autre, on ramassait une raquette puis on se frappait des balles. Puis jusqu'à temps que quelqu'un m'envoie dans un tournoi québécois, puis j'ai fait la finale dès le premier tournoi que j'ai joué. C'était au Parc La Fontaine. Au Parc La Fontaine, ici. À partir de là, c'est ça.
T'as dominé, toi, moins de 16 ans, moins de 21. T'étais un excellent joueur, non?
J'étais premier junior, 16 ans, 18 ans, 21 ans au Québec, pas au Canada. Je suis allé aux États-Unis sur une bourse d'études au Mississippi. J'ai essayé sur un circuit professionnel en Europe une année avec Richard Lejeune. On est allé jouer quelques tournois en Europe. Alors, comme je dit souvent, j'ai joué assez pour savoir que je ferais pas une scène avec ça.
Alors, non, mais tu débrouillais bien quand même.
Ah, ben oui.
Ta force, c'était quoi?
C'était de pas viser la force de l'autre joueur.
T'étais capable de bien lire ton adversaire. Ouais,
je courais pas mal partout, puis j'étais capable d'éviter le coup fort de l'adversaire. Donc stratégiquement, j'étais plus fort. J'avais pas d'armes vraiment particulières, donc c'est ça qui est embêtant.
Tu parles de ta passion pour le tennis. Ça fait des années que tu gravites dans ce monde du tennis. Qu'est-ce qui a changé depuis le début que tu suis le tennis, là, jusqu'à aujourd'hui, 2023?
À quel niveau, quoi? Parce qu'il y a plein d'affaires qui ont
l'évolution,
changé.
L'évolution, évidemment, l'évolution du jeu, mais les joueurs, les joueuses, leur façon d'interagir avec le public, leur façon de jouer sur le terrain.
Je pense que les joueurs sont rendus de plus grandes vedettes. Ce sont vraiment des vedettes internationales. À l'époque, vous en parlerez à des François Godbout ou Régent Genois ou Richard Legendre et tout ça. Et c'était une petite famille, même le monde du tennis professionnel. Tout le monde se connaissait. Puis c'était un petit peu un cirque qui se déplaçait d'une ville à l'autre, puis s'amusait, puis tout ça. Les Roy Emerson, Ken Rosewall, Laver et autres. Et là, c'est plus ça. Les joueurs, ce sont des véritables vedettes internationales.
Des superstars.
Et ce sont chaque joueur est une compagnie comme telle, avec un agent, beaucoup de monde autour et tout ça. Et donc oui, ça a changé énormément. Pour ce qui est du jeu, on le sait, le jeu, c'est sûr que...
Ça n'est plus ce que c'était.
Le 100 mètres se courait en 12 secondes, il se court en 10 secondes.
Exact.
Bon, alors ça, tout s'améliore toujours. Mais ici, au Québec et à Montréal, je pense que c'est là qu'il y a eu le plus gros changement. C'était un sport et un spectacle assez en marge, là, vraiment. Là. On cassait rien du tout là, dans les années 80 quand on a commencé avec le tournoi de tennis. Et de voir le succès que ce tournoi-là a présentement, je pense que c'est la plus grande transformation qu'on peut voir d'un spectacle, quel qu'il soit.
Et c'était un sport que les gens regardaient de haut un peu, non?
Oui, tout à fait. Et peut-être encore un peu. Puis ça, quand je parle d'accessibilité, ça veut dire aussi démocratiser le sport. Tout ce qu'on essaie de faire pour faire en sorte de dire, non, c'est cool, jouer au tennis, c'est le fun. Les jeunes, vous allez voir, vous allez aimer ça. Et c'est pas huppé. On essaie que ce soit le moins possible. On joue pas en blanc dans tous les clubs. Oui, il y en a des clubs, mais non, la plupart, je dis, si t'arrives, tout le monde a des souliers. Un short, une raquette, ça coûte pas si cher que ça, puis elle va durer toute ta vie. T'es pas obligé de changer à tous les saisons. Et alors, c'est un des sports les moins chers à pratiquer, à moins de payer la bâtisse.
Exact.
Alors, si t'as pas payé la foutue bâtisse, ça devient très, très abordable à jouer. Mais la popularité en général du sport au Québec, de notre sport, et je le vois, écoute, moi, je sais pas, je retourne les années 80-90. Pour voir du tennis à la télé, ça arrivait quoi, d'une fois de temps en temps, quand ils montraient les finales du Grand Chelem ou quelque chose comme ça.
Mais à l'époque, à RDS, on présentait seulement, je pense, de mémoire, demi-finale et finale des Grands Chelems.
C'est à peu près ça, de ces affaires-là.
Maintenant,
tu as très peu de journées dans l'année où tu n'as pas un poste qui monte du tennis.
Exactement, exactement.
On regarde, tu as des écrans ici, oui. Il y a du tennis présentement.
Tout à fait.
À la télé. Alors, la popularité, ça vient de la demande des Québécois. Mm-hmm. On veut. Et c'est particulier au Québec. Je veux dire, c'est pas tout à fait comme ça dans le reste du Canada. Alors, et ça, c'est le tournoi de Montréal. Je pense que ce sont les effets de la popularité du tournoi puis du rayonnement.
Je vais te poser une... Non, on va aller à la pause. On va aller à la pause parce qu'il m'en reste juste une avant la pause des informations. Donc, il nous reste peu de temps, mon cher Eugène. Ah. Puis, il y a plusieurs personnes qui réagissent sur la messagerie texte 98985. OK, quelques minutes encore avec Eugène Lapierre. Des questions. D'abord, Patrick, le plus gros challenge que tu as vécu lors de l'organisation du tournoi, Eugène?
Ben, écoute, Yannick, on a parlé avec la question de la température durant la semaine. En 2010, on n'a pas frappé une seule balle le samedi des demi-finales et le dimanche de la finale. Aucun match. Donc, il restait toujours le lundi matin en se réveillant les demi-finales à jouer et la finale qu'on a jouée donc le lundi.
Wow.
C'est l'année où Caroline Wozniacki a remporté le tournoi. Et donc, elle en parlait justement quand elle est revenue à Montréal cette année. Alors ça avait été quelque chose, vraiment.
Beaucoup de tourisme, beaucoup de gens de l'extérieur.
On est entre 15 et 17%. Faudrait que je regarde encore les chiffres. C'est pas moi qui est l'expert de ce côté-là. Donc, à peu près une personne sur 6 vient de l'extérieur du Québec pour venir voir les matchs. C'est bien. C'est pas la F1. C'est pour ça que ça me fait souvent dire que le succès de notre tournoi, c'est d'abord les Montréalais, les Québécois qui le créent, qui le font. C'est notre tournoi. Ils achètent les billets en premier et là, il n'en reste plus après ça pour
tant
de touristes. Mais c'est sûr que ça prend de l'ampleur de ce côté-là aussi.
Alors, tu as été directeur du tournoi pendant, plus de 20 ans, 22 ans. Le chiffre, on va donner le chiffre de 22 ans. T'es conseiller spécial auprès du président. T'as discuté avec le président de la WTA la semaine dernière lorsqu'il a passé plusieurs jours ici à Montréal. Et tu es sur le comité innovation de la WTA. Donc, on te voit quand même, on te voit gros au sein du tennis dans le monde, Eugène Lapierre.
Ouais, je dirais pas ça comme ça, mais j'ai été sur le conseil des tournois pendant plusieurs années à la WTA, avec l'ATP aussi. Et récemment, la WTA a créé 2 ou 3 comités pour essayer d'améliorer le produit du tennis féminin, dont un comité, comme tu le mentionnes, innovation. Et ils m'ont demandé de le présider. Alors peut-être qu'ils voient qu'à Montréal, on essaie des choses, qu'on est plutôt originaux dans différentes façons de faire les choses. Alors je leur ai envoyé une foule d'idées et on va analyser ça. On va probablement tester des nouvelles choses. Ça peut être, par exemple, des choses qui m'énervent un peu. Puis c'est pourquoi qu'on fait attendre les gens avant de rentrer dans le stade.
Ouais.
Et t'attends au changement de côté parce que les joueurs, tu vas déranger les joueurs. Il y a certainement des façons de laisser rentrer du monde. Je comprends que certains endroits, tout de suite derrière le serveur ou ainsi de suite, peuvent être embêtants, mais la majorité des endroits dans le stade, on pourrait se promener puis ça dérangerait personne. Mais enfin, on verra bien ce qu'on va essayer. Le score, essayer de rapetisser la longueur des matchs. Le problème pour les amateurs, mais surtout pour la télévision, pour la vente du produit du tennis à l'international, aux différents réseaux, c'est la prédictabilité de la durée des matchs. On ne sait pas si ça va durer 49 minutes ou 2h 49 minutes. Alors ça, moi je pense qu'on peut changer ça, il y a différentes choses qu'on peut faire. Je veux pas m'avancer trop de ce côté-là, mais j'ai des idées de ce côté-là. On peut-tu jouer des matchs no-ad? Tu sais, pas d'avantage. Avantage, égalité, avantage, égalité. À Wimbledon, j'ai vu un match où il y a une partie qui a duré une demi-heure. Un jeu seulement. Avantage, égalité. C'est la durée d'un set au complet. Alors, il y a peut-être des choses à
donc,
faire.
Donc, ce serait 15, 30, 40 points de la victoire.
À égalité.
À égalité.
Donc, 15, 30, 40, 40, 40, 40. Égalité. Prochain point, le remporte. Point... Ça joue déjà dans les collèges américains.
Oui, ça joue ici.
Ça joue déjà, ici. Les matchs doubles se jouent comme ça présentement. Il y a différentes façons. Enlever le let. On peut-tu avoir le nom des joueurs et des joueuses dans le dos? Des joueurs, juste pour les... On les connaît pas. Qu'est-ce que tu veux, moi-même? Je sais pas. Après, quand je vois de loin, là, de 20... J'en connais 20, 30, 40, mais je les connais pas toutes. Là, on peut-tu... Alors, il y a plein d'idées. Bon, on va tester des choses à un moment donné. J'ai bien hâte. Ça va être le fun.
Beaucoup de défis, puis c'est pas tout de suite l'heure de la retraite, ce que je comprends de ce que tu nous parles.
Ouais, c'est pas du 100% de l'occupation, là, mais
non,
ça,
mais quand
c'est
même,
très intéressant.
T'es toujours actif dans le monde du tennis. Eugène Lapierre, conseiller spécial auprès du président de Tennis Canada. Merci beaucoup, Eugène, d'être venu passer cette heure-ci avec nous. Je pense que les auditeurs ont bien apprécié ta présence de par les questions qu'on a eues via la messagerie texte.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci Eugène, à bientôt.
Merci.
Bye bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23. c'est 23.